Alors, je tiens d'abord à vous remercier, Jean-Marc Morisseau et Philippe Madeleine, de m'avoir invité à participer à vos travaux. Et je suis particulièrement heureuse et même honorée d'être ici, car je partage avec mes deux collègues la conviction qu'il n'est d'histoire ou de géographie, et de géographie même, que dans la pratique quotidienne de l'interdisciplinarité. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, je ne suis pas ruraliste. Mais après avoir initialement renoncé à fréquenter vos terres, lorsque vous m'avez demandé de présenter les écrits du Fort Privé dans une approche plutôt rurale, je vous ai dit non, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, au mois de juillet. J'ai quand même essayé d'ébaucher quelques pistes personnelles, parce que ça me semble intéressant, puis en venant ici quand même, je ne voulais pas vous faire l'offense de ne pas parler des campagnes. Je vais essayer quand même d'ouvrir quelques sentiers buissonniers qui ne me sont pas familiers, qui me sont même pour l'instant inconnu, mais qui, grâce à vous, risque de s'ouvrir pour moi. Alors, ce tableau de Michel Nous, que l'on peut voir à la National Gallery, et qui a été peint vers 1650, soit à la période d'apogée du type d'écriture domestique que nous allons évoquer, expose assez bien les éléments essentiels d'une pratique partagée par l'ensemble des Français, et même, pourrait-on dire, l'ensemble des Européens à l'époque moderne. On voit, sur votre gauche, on voit un père, un stylet à la main, qui s'interrompt à l'instant pour écouter son fils. Et il partage la table familiale avec son épouse et ses plus jeunes enfants qui sont très attentifs à l'intrusion du peintre dans la pièce commune. Là, hein. Et père et fils, sur la gauche, ont un intérêt commun qui est lié au livre. Celui que rédige le père et celui que lui tend le jeune garçon qui, peut-être, vient interrompre son père pour une leçon de lecture ou quelque autre demande de conseil à propos du livre qu'il tient dans ses mains. Épouse et fille, et le petit bambin au sexe encore indéterminé, là, partagent cette scène, mais en même temps, ils en sont exclus. Hein, une poupée, un hochet, un couple de cerises sont leurs seuls attributs. Occupation ludique très éloignée de l'imprimé. En revanche, le père et le fils partagent un intérêt commun pour l'écrit qui est vraiment visible ici, et on peut imaginer que le père plus tard remettra le livre de contes qu'il est en train d'écrire, de tenir, qu'il le remettra à son fils, et que celui-ci aura alors pour tâche de perpétuer la tradition paternelle. Ce fils mettra ses pas dans les pas de son père, et comme lui notera avec soin les menus et au fait de l'existence et de la mémoire familiale. Donc là, dans ce tableau de Michel Nous, tout est dit. On pourrait presque s'arrêter là, mais on va aller quand même un petit peu plus loin. On va s'interroger sur la raison d'être de ces livres de raison. D'abord du point de vue de leurs principaux usagers, les scripteurs eux-mêmes, et puis ensuite du point de vue des historiens, qui les questionnent de mieux en mieux, à vrai dire, sur les sujets les plus divers. Un plan tout simple, qui consiste tout d'abord à évoquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les écrits du Fort Privé, enfin les livres de raison en particulier, à évoquer donc ces livres de raison, à donner la définition, à évoquer la forme et à évoquer les pratiques liées à la tenue du livre. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on verra comment les livres de raison ont été utilisés par les historiens. Alors tout d'abord, sur le temps long, depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, avec Madeleine Foisil. Et je terminerai ce deuxième point en évoquant les travaux d'un groupe de recherche qui est né en 2003 et qui travaille en ce moment sur les écrits du Fort Privé, qui est une notion plus large que celle du livre de raison. On va sans doute y revenir. Et enfin, donc, j'ai essayé d'ébaucher, à partir des travaux de quelques-uns des collègues, de mes collègues, et moi-même, à partir de quelques pistes que j'ai envisagées de manière très furtive et encore inachevée. Alors, quand on évoque la définition du livre de raison, le livre de raison est une expression qui ne va pas de soi. En tout cas, elle ne va surtout pas de soi pour les étrangers, pour les Européens qui travaillent avec nous sur ces ensembles d'écritures domestiques, mais elle ne va pas de soi non plus pour les Français eux-mêmes. Livre de raison, si vous demandez à quelqu'un dans la rue ce qu'est un livre de raison, il sera sans doute très ennuyé à l'idée de vous donner une réponse précise. Alors, le livre de raison est un livre de contes. On va très souvent, depuis que Madeleine Foisil nous y a invités, on va chercher la définition dans le dictionnaire de Furetière, qui est très pratique, puisque c'est un dictionnaire qui est paru en 1690, donc à la mi-temps de l'époque moderne, on pourrait dire. Et c'est un dictionnaire, en plus, qui enfin, Furetière, Antoine Furetière avait le souci d'évoquer non seulement les objets, mais les pratiques liées aux objets. Et Furetière est le premier à sortir, pour les définitions données des livres de raison, à sortir de la simple pratique marchande, puisque un livre de raison, selon lui, est un livre dans lequel un bon ménager ou un marchand écrit tout ce qu'il reçoit et dépense pour se rendre compte et raison à lui-même de toutes ses affaires. Donc là, on sort de l'univers marchand et on entre dans celui du bon ménager, que Madeleine Foisy connaissait bien, puisque c'est elle qui a inventé le beau texte de Goubertville. Alors, l'étymologie du livre de raison, qui nous éclaire donc sur cette expression, raison vient de ratio, qui signifie calcul, donc le livre de raison au sens strict, c'est précisément un livre de compte. L'auteur, là-dessus nous reviendrons tout à l'heure, l'auteur, les scripteurs, on évoque plutôt d'ailleurs le terme de scripteur que celui d'auteur, pour lui dénier quelques qualités littéraires qu'il n'a pas, donc on préfère celui de scripteur. L'auteur est avant tout un père de famille. Donc c'est au sein de la famille que se situe ce type d'écriture domestique. Un cap d'oustal, dit-on en occitan, dans le sud de la France. Un chef de maison. Bien sûr, on trouve des livres de raison chez les clercs aussi, qui ne sont pas chefs de famille. On trouve des livres de raison, par exemple, dans certains monastères. Certains chanoines, certains prêtres tiennent des livres de raison. En fait, ces livres de raison sont tenus par des hommes avant tout. Pour 100 livres de raison retrouvés, 10 ont été tenus par des femmes. Donc l'écriture féminine, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais évoquons-le quand même. L'écriture féminine est vraiment extrêmement rare. Les femmes sont muettes. Bon, pour des raisons que l'on peut comprendre, pour des raisons culturelles, elles sont moins bien alphabétisées, mais aussi pour des raisons sociales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas chefs de famille, et lorsqu'elles le deviennent, lorsqu'elles sont veuves, elles deviennent alors scripteurs à leur tour. Il n'y a pas de mot, il n'y a pas de féminin pour scripteur, et elles le deviennent pour un temps éphémère. Ces chefs de famille, dans quels milieux sociaux les retrouve-t-on? Les milieux sociaux professionnels sont attendus, c'est-à-dire ce sont des individus qui, pour qui la pratique de l'écrit ne pose pas de problème, ou pas de réel problème. Même si certains marchands savent mieux compter qu'écrire et écrivent de manière phonétique, eh bien, les marchands sont nombreux à tenir leur livre de raison. Les notaires également, les praticiens du droit en général, sont assez nombreux à tenir leur livre de raison. Les artisans, les maîtres artisans également, tiennent leur livre de raison. Et, comme on le verra tout à l'heure, un certain nombre de paysans aisés tiennent également leur livre de raison. Alors, quant au contenu, quant au support, on va d'abord aborder le support. Ce support, il est d'une extrême variété. On va le voir tout de suite, tout à l'heure. Du petit carnet de mauvais papier au grand livre relié. Donc, il est difficile de trouver une quelconque homogénéité dans ce type d'écrit domestique. Et qu'écrivent-ils, ces scripteurs? Eh bien, ils tiennent leurs affaires de famille à l'intérieur de ces modestes cahiers. Et plus largement, lorsqu'ils sont plus bavards, ils informent leur cahier du cours ordinaire des choses de la vie, pour évoquer la belle expression d'Arlette Farge. Et là, ils énoncent les achats, les ventes, bien sûr, livre de compte oblige, mais aussi les naissances, les mariages, les décès, et les menus et aux faits qui surviennent, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Les faits extraordinaires, par exemple, les catastrophes naturelles, les orages de grêle, les récoltes retardées, enfin tout ce qui est jugé digne d'être noté, d'être inscrit dans le livre de mémoire. Et beaucoup plus rarement, là il faut vraiment que le scripteur soit ait une plume aisée, beaucoup plus rarement ils y inscrivent des événements d'ordre provincial, national, voire même international de temps en temps. Alors la période d'épanouissement de ces écrits se situe plus tard, elle est beaucoup plus tardive que celle qui a été perçue en Italie. Les Italiens sont les premiers à avoir inauguré ce genre d'écriture domestique. Et les Italiens, on trouve des livres de famille et des libri di famiglia en Italie dès le XIIIe siècle. Les Français, à la faveur très certainement de l'imprimerie, à la faveur de la diffusion des pratiques comptables, ont commencé à rédiger leurs livres de raison à la fin du XIVe siècle, et la période d'épanouissement, comme vous le voyez ici, se situe entre 1550 et 1650. Pratique contemporaine de celle des Espagnols, par exemple, au moins d'après ce qu'on a pu en juger des travaux les plus récents en Espagne. Et cette pratique est observée jusqu'au XXe siècle. Et là, nous avons des exemples d'études récentes, hein, puisque Philippe Madeline et Jean-Marc Morisseau ont publié récemment, et vont publier, si j'ai bien compris, les carnets de Pierre Le Bugle très bientôt aux éditions Belin. Donc jusqu'au XXe siècle perdure cette pratique, même si elle est mal connue aujourd'hui, au moins jusqu'aux années 50 du XXe siècle et au-delà, hein, puisque Pierre Le Bugle écrit jusque dans les années 70, si je me souviens bien. On a encore des traces de cette pratique ancienne dans les maisons paysannes. Hein, la pratique a perduré en milieu paysan. Moi, je ne l'ai pas observée en milieu urbain, en revanche, au XXe siècle. Quelle forme prenaient ces cahiers ? Eh bien, toutes les formes étaient envisageables, étaient possibles. Des feuilles en format A4, voire A3, pliées en deux et rapidement cousues. Donc, on pouvait observer un certain bricolage pratiqué chez soi avec les moyens du bord. On trouve également, donc ça c'est l'exemple que vous avez sur votre gauche, livre de raison des Dalmas de la Bessière, et ces exemplaires-là, donc qui n'ont pas de couverture, hein, qui sont simplement des feuilles pliées et cousues, ces exemplaires-là ont très souvent disparu, puisque de très mauvaises factures, de médiocre qualité, écrits d'une plume illisible par nos contemporains, ont souvent été jetés, brûlés, mangés par les souris. Ou remployé parfois en papier à couvrir les pots de confiture, par exemple, hein, ou en abat-jour. Hein, on les retrouve dans des formes parfois assez inattendues, ou à la poubelle, comme ça a été souvent constaté par des archivistes soucieux de retrouver leurs archives parfois dans les dépôts d'ordures. C'est arrivé dans l'Aveyron, par exemple, hein, où des registres de notaires ont été retrouvés dans les dépôts d'ordures de la ville de Millau, avec un certain nombre de livres de raison. Lorsque le scripteur est un peu plus fortuné, lorsqu'il a envie aussi de conserver la mémoire de sa famille un peu plus longuement, comme c'est le cas de la famille d'Alexandre de Rochemort en Provence, avec ce bel exemplaire qui a été confié aux Archives nationales, alors là, il s'agit vraiment de beaux livres, hein, qui sont commandés, des livres blancs, qui sont commandés chez les imprimeurs, dont on retrouve trace de la commande chez les imprimeurs, et dont on a un bel exemplaire ici, donc couverture de basane, avec des illustrations estampées à froid, parfois même un fermoir avec une clé, dont on a, hein, donc on a une trace du fermoir ici. Livre intermédiaire, facture intermédiaire, celui d'Eddie Jols, qui est conservé aux archives départementales d'Aveyron, qui est fabriqué à partir de remplois de parchemin. Ça arrivait souvent, donc la couverture a fait l'objet d'un remploi. Et le parchemin, là, ici, est trop large pour le cahier interne et permet donc au scripteur de refermer son carnet, éventuellement de le boucler avec une cordelette et d'y enfermer des feuillets volants qui concernent des contrats, par exemple, ou des lettres patentes, enfin bon, des documents sous forme volatile qu'il peut conserver ainsi en les ficelant avec le cahier. Donc le livre, là, se fait coffre. Une autre possibilité d'écrire la mémoire familiale est celle qu'a utilisé Montaigne, d'ailleurs, mais de manière extrêmement éphémère, c'est le cas de le dire, puisqu'il a utilisé des éphémérides, ici les éphémérides de Beuter, utilisées par Montaigne pour environ une trentaine de notices. Là, j'ai choisi la notice de l'assassinat du duc de Guise, hein, signalée par Montaigne en quelques lignes. Alors, ces éphémérides, on pouvait les acheter imprimés, donc pré-imprimés, chez son libraire-imprimeur. Donc, le principe de l'éphéméride, c'est le principe d'une page imprimée avec un certain nombre d'événements journaliers. Donc, on avait l'impression que le temps était circulaire, pas d'année, aucune année ne figure sur ces éphémérides. Et ici, on a de grands événements depuis la naissance du Christ, qui se sont tous passés donc le 23 décembre donné, et Montaigne ajoute l'événement de la mort du duc de Guise. Et à droite, un document beaucoup plus extraordinaire, il s'agit d'éphémérides fabriqués par la famille, c'est la famille V7. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire du Languedoc, il s'agit de la famille de l'ancêtre du chanoine V7 qui, avec le chanoine de Vic, a composé une énorme histoire du Languedoc, au début du XIXe siècle. Là, donc, ce sont des éphémérides qui ont été composées par la famille et qui ont été conservées par elle de la fin du XVe siècle au XXe siècle. Alors, sur une même page, trois journées sont distinctes sur la page. Ici, c'est les 28, 29 et 30 juillet. Et donc, sur cette même page, on a trois notices à trois dates différentes, 1637, 1916 et 1655, avec trois événements différents. Le premier est celui d'une récolte qui fut si avancée, l'année fut si avancée que la dite récolte des blés fut quasi faite, surtout l'Albigeois, hein, donc le 28 juillet 1637, qui est une date hâtive pour ce type de récolte. 1916, à la mort glorieuse de l'un des enfants du fils aîné Joseph dans la bataille de la Somme, et 1655, donc sur la même page, une autre mort glorieuse en guerre contre la France, en guerre contre la Catalogne, 1655, donc la mort d'Étienne à l'âge de 20 ans. Donc deux jeunes décédés de la famille sur la même page à presque trois siècles d'intervalle. Alors ce genre de document est assez émouvant, mais relativement rare, ce genre d'organisation cyclique, hein, avec pour premier rythme, hein, pour rythme primaire de l'organisation de l'écriture, la journée, le jour et non l'année, est relativement rare. Alors à partir de ces supports extrêmement variés, dont on découvre plusieurs types dans le même fond familial, on peut imaginer que les usages diffèrent selon la taille du livre et que plusieurs documents sont nécessaires à la pérennisation de la mémoire familiale. Alors c'est vrai, quand on a la chance de découvrir des fonds familiaux, on a parfois, hein, le bonheur de trouver plusieurs carnets dans un même fond familial, comme ici, dans le fond de la famille des Méquilly en Alsace au XIXe siècle, où là, à chaque carnet est attribuée une fonction différente. Hein, livre de compte pour le grand livre, et pour le plus petit, le livre est consacré à l'une des filles, à l'éducation de l'une des filles, à Camille Méquilly, dont on relate donc les premiers pas, les premières dents, dans l'ordre inverse d'ailleurs, et puis ensuite les premiers pas dans la vie. Quant à la taille et à la durée des livres de raison, eh bien, la période d'épanouissement, donc c'est bien les 16e et 17e siècles, et la période durant laquelle ces livres de raison sont les plus volumineux et durent le plus longtemps, c'est exactement la même, c'est-à-dire au 16e et 17e siècle, vous voyez que jamais les livres de raison n'atteignent plus de trois générations, hein, même si le souci de pérennisation de la mémoire familiale est patent, hein, même si la longévité est l'un des objectifs à tenir par le scripteur. Eh bien, les livres ne dépassent guère trois générations. Et c'est dans cette période aussi que les livres atteignent leur plus grand volume, 300 feuillets étant la moyenne maximale qu'ils aient atteinte. Donc, de petits livres, en règle générale, d'assez courte durée. Et si nous entrons maintenant au cœur du livre et que nous examinons la page blanche, nous pouvons observer, grâce au livre de raison de Raymond d'Austrie, qui est un marchand bourgeois de Rodez, qui écrit son livre de 1576 à 1624, nous pouvons voir que les notices, là c'est assez emblématique de la pratique, hein, les notices sont très courtes, hein, le style est fragmentaire, lacunaire, fragmentaire, et le scripteur laisse toujours une zone blanche entre deux notices, qu'il noircira plus tard ou dont il laissera le soin à ses héritiers de compléter sa notice initiale. Alors ici, donc Raymond d'Austrie a noté très consciencieusement la naissance de son fils Jacques, hein, n'oublions pas donc de le situer d'un point de vue astrologique, et il a laissé une partie blanche, il a signé sa notice, hein, et il a laissé une partie blanche qu'il a composée plus tard en indiquant que son fils Jacques a été mis en apprentissage dans la ville de Foix, chez un marchand de draps. Et puis plus tard, lorsque son fils Jacques part en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien, il complète également la notice en indiquant ce pèlerinage. Lorsque des blancs sont aménagés, c'est en l'attente d'une inscription postérieure. Et la page est donc un espace potentiel de mémorisation, à la fois mesuré et noirci par des plumes qui peuvent être successives, de génération en génération. Un fils, par exemple, pourra noter la mort de son père, à la notice de la naissance de son père et de son qui aura été préalablement complété par son mariage. Le processus d'écriture domestique apprécie donc le temps long Et on peut dire que rien n'est jamais rédigé d'un seul trait. Le scribe revient sur ses écrits, et après lui, ses enfants et ses petits-enfants pourront encore compléter les informations données par leur ancêtre. En outre, la feuille de papier est parfois considérée comme un lieu d'expérimentation. Le carnet n'a pas ce caractère sacré qu'aura plus tard le journal intime, hein, dont il n'est pas d'ailleurs l'ancêtre. On pourra y revenir. Le carnet, je ne dirais pas qu'il traîne sur la table, parce que le plus souvent, quand même, il est recelé par le chef de famille, hein, qui le passe à son fils. Mais il peut être un lieu d'expérimentation, comme ici, hein, où les enfants font leurs premières lettres, hein, dans le livre de raison de la famille Pêche de Casal-Renoux, qui est une famille de propriétaires terriens du Languedoc, de la région de Carcassonne. Comme ici aussi, où le scripteur Mathieu Alvarez, dans la région de Toulouse, laisse courir sa plume, comme nous la laissons courir parfois quand nous réfléchissons, et dessine des poules ou des paons, hein, vous choisirez. Je n'ai pas su trancher. Mes étudiants me disent que ce sont des paons. Moi, je pensais que c'était tout simplement des poules. Comme ici, où sur la couverture figure un portrait dont on ne saura jamais s'il s'agit d'une esquisse faite par Louis de Bonal lui-même, puisqu'il s'agit de son livre de contes. Donc le portrait gardera son caractère énigmatique. On s'essaye aussi à sa propre signature, comme c'est le cas ici, chez Antoine-Jean Saulier, qui était armateur à Marseille, et qui était né en Rouergue, et qui était un véritable hypergraphe, hein, qui était toujours avec une plume à la main, hein, si l'on en croit le volume des archives privées qu'il nous a laissées. Et dans l'un de ses cahiers de notes, il note, cahier de notes de moi, Antoine-Jean Saulier, fait à Marseille, signatures diverses que je crois avoir employées dans ma jeunesse, Jean-Antoine Saulier, hein, il hésite entre la forme de son prénom, entre Jean-Antoine et Antoine-Jean, puis finalement Antoine-Jean Saulier, et finalement, il choisit de garder la signature qui signale sa position dans la fratrie, hein, Saulier l'aîné. Et puis, il change encore d'avis, signature que j'ai finalement adoptée, Saulier d'Allaret, et il s'explique. Depuis 1800, j'ai ajouté le nom de ma femme. Le nom de sa femme se serait perdu sans cela. Il a même prénommé son premier garçon, son premier fils, d'Allaret. Hein, donc, il lui a donné comme prénom le patronyme de sa femme afin que le nom ne se perde pas. Donc, voilà ce qu'on apprend ici. Hein, par ce jeu de signature assez drôle qui nous rappelle nos propres jeux de signature lorsque nous étions adolescents. Alors, les scripteurs ne nous disent quasiment rien sur leur choix de plume, ni sur le choix de papier. Hein, il faut aller voir là du côté des livres de comptes et des imprimeurs pour avoir une idée de ces choix de plume et de papier. On peut s'en faire une idée assez précise. En revanche, l'encre est un gage de l'éternité de l'écriture du scripteur, et donc nombre de recettes d'encre figurent dans ses écrits, hein, domestiques. Et là, nous avons quelques belles recettes d'encre signées de la main d'Antoine-Jean Saulier, hein, celui qui s'essayait aux signatures tout à l'heure, et faites à base d'étain, de piment, de noix de galle, ce qui est assez classique. Et Antoine-Jean Saulier aime bien aussi les encres qui apparaissent et disparaissent. Des recettes qui se transmettent de génération en génération. Elles témoignent aussi de la lecture d'ouvrages plus savants, qui donnent notamment les formules à partir de noix de galle. Donc l'intérêt pour la morphologie générale du livre, présenté ici de manière trop rapide, est motivé par l'envie de connaître, sous la plume du scripteur, un certain nombre de pratiques d'écriture domestique des plus ordinaires. On souhaite alors entendre crisser la plume et savoir comment et pourquoi elle crisse. Donc j'en viens maintenant aux pratiques. Les livres de raison sont d'abord des livres de contes, et de cette origine comptable, les scripteurs semblent avoir conservé un certain goût pour le classement, hein, une certaine passion de la liste, chère à Georges Perec, et sur laquelle j'ai un peu travaillé moi aussi, cette passion de la liste, parce que je trouve cette manière d'organiser son temps assez passionnante, notamment dans l'ordre choisi par les scripteurs eux-mêmes, qui peut nous paraître à nous assez désordonné. Ce livre de Marianne Blanc, qui est conservé aux archives nationales, qui date du XVIIIe siècle, est assez intéressant. Elle reprend un répertoire qui a été certainement abandonné par l'un des siens, et elle en fait son livre de raison, mais elle n'utilise pas la qualité de répertoire du livre pour classer les données. Donc elle a un ordre qui n'appartient qu'à elle, et qui reste pour nous tout à fait mystérieux. Alors on observe un lien fort entre degré de technicité scripturaire et forme et contenu du livre. Aux notices courtes, fragmentaire de quelques lignes, correspond à la validation quotidienne des comptes et menufaits domestiques, de l'achat de la douzaine d'œufs sur le marché à la naissance du premier enfant. Et ce type de mémoration, de remémoration, est à la portée du plus grand nombre, même ceux qui écrivent de manière tout à fait phonétique. Et nombre de marchands, par exemple, écrivent de manière tout à fait phonétique. En revanche, les recensions plus longues concernent plutôt des récits rédigés a posteriori, fruit d'une remémoration moins spontanée que la première. Ces textes sont parfois réécrits à partir d'une rédaction au brouillon. Par exemple, le livre d'oraison de Bonne Maison, qui est un riche agriculteur de la région toulousaine, pratique les deux méthodes dans son livre. C'est-à-dire qu'il raconte son mariage, je crois que nous sommes dans les années 70 du 18e, si ma mémoire est bonne. Et là, il raconte longuement, il fait un long récit sur les pluies diluviennes qui ont empêché les récoltes, enfin qui, pensait-il, empêcherait les récoltes d'arriver à maturité. Puis les récoltes sont arrivées à maturité, c'est le fruit de la providence. C'est cette année-là qu'il s'est marié. Et ensuite, il reprend le cours de son livre de contes en pratiquant, comme tout bon paysan, la pratique des bûchettes pour faciliter ses contes personnels. Alors voici donc dans le même livre une double pratique du récit plus long. Et donc dans certains livres, on trouve l'inscription, l'insertion, l'incrustation d'événements qui n'ont rien à voir avec la famille, mais qui sont là comme des marqueurs temporels, qui inscrivent finalement la famille dans la grande histoire. Et là, on a l'une des nombreuses mentions de l'assassinat d'Henri IV, dans le livre de Villaret de la Calçade, dans la région de Sévrac-le-Château. Donc les livres les plus bavards dépassent l'horizon familial et émaillent donc la saga familiale d'événements historiques précis. On peut donc, en bref, cerner deux grandes pratiques qui correspondent à trois usages principaux du livre d'oraison. Les deux pratiques sont tout d'abord la recension précise de faits familiaux de tous ordres, de la naissance des enfants à l'achat des terres ou à l'évaluation du fruit de la récolte. Il s'agit là de compter ses biens et de compter les siens, de savoir sur qui l'on peut compter, finalement, sur qui et sur quoi on peut compter. Au-delà de la maisonnée, donc deuxième pratique, au-delà de la maison, du lieu de la parentèle, on observe parfois la notation plus pointilliste, moins régulière et tout à fait subjective d'événements extérieurs qui frappent de près ou de loin l'esprit du scripteur. Ces deux pratiques correspondent à trois usages. Un usage simplement domestique, ces écrits sont des écrits domestiques, il s'agit de dresser l'inventaire des choses faites et non à faire, j'insiste là-dessus. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes familiers de la pratique de l'agenda, même si elle a pris d'autres formes avec l'iPhone et autres instruments électroniques. Mais nous sommes dans l'inscription des choses à faire, alors que là, il s'agit d'inscrire les choses qui ont été faites, dites, vécues. Il s'agit de noter donc le nombre de barriques alignées dans sa cave vinaire ou celui des arbres que l'on vient de greffer. On le verra tout à l'heure. Il s'agit de garder mémoire des savoirs utiles à l'ensemble de la maisonnée, comme par exemple noter les recettes médicinales qui sauveront hommes et biens. Voilà pour l'usage domestique brièvement esquissé. Deuxième usage, un usage juridique. Le livre d'oraison, on ne s'y attend pas aujourd'hui dans notre système juridique extrêmement rationnel. Le livre d'oraison est une pièce probatoire qui peut être produite en justice. Il s'agit avec le livre d'oraison de faire la preuve d'un lien de famille, par exemple, de dire « je suis le fils d'eux, je le prouve, je vous présente mon livre d'oraison ». Il s'agit là de pallier aussi parfois l'absence d'un registre paroissial et de décliner donc son identité, comme on le fera d'ailleurs au XIXe siècle avec le livret de famille. Il s'agit également de se prévaloir d'un privilège ancien, tel qu'une exemption d'impôt pour service rendu par un ancêtre lointain, par exemple. Il s'agit enfin de tenter de prouver, parce que là, le livre de raison est conçu comme un commencement de preuve et non comme une preuve réelle, de tenter de prouver la propriété d'un bien immobilier. Voilà quelques usages juridiques possibles. Et enfin, un troisième usage, un usage mémoriel. Il s'agit pour le père de famille de s'inscrire dans la lignée des ancêtres qui l'ont précédé au travail d'écriture et de continuer ce travail, de continuer à laisser trace de la mémoire du clan. Et c'est sans doute précisément pour ce dernier usage que certains auteurs n'hésitent pas à émailler leur égo-histoire de considérations sur les choses du monde, telles la mort du bon roi Henri, ou encore la mémoire du grand hiver 1709, qui est aussi une autre balise extrêmement prisée par les auteurs du début du 18e. On peut avouer quand même le peu d'intérêt pour les livres de raison qui ne sont que des livres de contes. C'est vrai que les historiens ont une vraie prédilection pour les livres bavards tels que celui-ci. Et les étudiants en particulier sont assez déroutés par les livres de contes qui sont d'une approche un peu aride, qui présentent des contes à l'état brut, et préfèrent évidemment les livres de raison qui se rapprochent insensiblement de l'écriture du journal ou des mémoires. La frontière est poreuse, le genre est hybride, si bien que la question de définition reste insoluble. On pourra peut-être l'aborder tout à l'heure au moment des questions. C'est l'une des grandes questions que se posent les historiens européens aujourd'hui à propos de la définition du genre. Alors voyons justement, à propos des usages historiens qui ont été faits depuis, on va partir de 1885, c'est-à-dire depuis le moment où le Comité des travaux historiques et scientifiques, qui est né en 1834, organise de 1885 à 1892 des congrès dont un atelier de 1885 à 1892 est consacré aux livres de raison. Donc le thème des livres de raison figure pour la première fois au programme du congrès annuel des sociétés savantes. La deuxième date, c'est celle d'un très beau livre, dont je vous conseille vraiment la lecture. Alors, je donne cette couverture parce que c'est ce livre-là qu'il faut lire aujourd'hui et non pas celui de 61, parce que ce livre-là a été complété, analysé par trois historiens qui ont réédité chez Albin Michel, toujours dans la bibliothèque de l'évolution de l'humanité, l'œuvre de Mandrou et qui l'ont amplement complété par une édition critique vraiment de grande qualité. Donc je vous conseille plutôt l'achat de ce livre-là, la lecture de ce livre-là. Donc 61, pourquoi cette date ? Là, je vais passer assez vite parce que j'aimerais quand même évoquer les approches en histoire rurale. Parce que Robert Mandrou est le premier, après les inventeurs du temps de Frédéric Leplay, à avoir ressuscité ce type de sources et avoir souhaité leur inventaire et leur dépouillement. Donc, dans cet ouvrage, vous trouverez un premier inventaire effectué par Robert Mandrou à partir des publications du XIXe siècle, notamment à partir des publications de Philippe Tamisier de la Roque. Et puis, enfin, véritable réveil, alors, souhaité par Robert Mandrou, mais si j'ai dit Roland Mounier, c'est parce que j'avais une arrière-pensée, avec la publication de l'Histoire de la vie privée, sous la direction de Philippe Ariès. Et dans le tome 3, vous trouvez un beau chapitre rédigé par Madeleine Foisil, qui invente d'ailleurs la belle formule de l'écriture du fort privé, qui elle aussi peut sembler assez énigmatique, mais qui correspond bien à ce souci de ne pas enfermer les écrits domestiques dans un genre bien précis, dans la mesure où ces écrits domestiques sont de forme et de fond extrêmement divers et variés. Je vais passer peut-être un peu plus vite sur les différentes phases, c'est-à-dire la phase des pionniers, du temps où on réédite au XIXe siècle, dans les revues d'histoire locale, mais aussi dans des éditions régionales, un certain nombre de livres de raison, dont certains aujourd'hui se sont perdus, donc nous profitons de ces éditions-là, même si ces éditions sont aujourd'hui extrêmement critiquées dans la mesure où elles ont fait l'objet de censure, de normalisation d'écriture. Enfin bon, elles ont quelques travers, quelques défauts que nous leur reprochons aujourd'hui, mais elles ont le mérite d'exister. Donc Robert Mandrou, je l'ai évoqué à grand trait tout à l'heure, Madeleine Foisil, donc l'inventrice du Sire de Gouberville, qui a donc publié à la fois le journal de Gouberville, le volumineux journal de Gouberville, et qui en a donné aussi une très belle synthèse qu'on trouve aujourd'hui en Champlain-Marion. Et qui a complété ce beau travail par un chapitre de synthèse où elle prévient les jeunes historiens notamment sur l'aridité de ce genre d'écriture, mais aussi la passion qui peut animer les chercheurs qui travaillent sur ce type d'écriture. Donc innombrables méconnus dispersés, richesse mais aussi pauvreté, elle prévient. Chaque livre est une œuvre autonome, donc là elle a tout dit. Des publications pleuvent, en voilà une petite liste. Tout d'abord, pourquoi je les ai scindées en deux parties, tout d'abord, des publications qui concernent des écritures ordinaires, mais de la part d'individus eux-mêmes extraordinaires, aux destinées extraordinaires. Prenons par exemple le cas de Valentin Jamré Duval, qui était orphelin, abandonné, et qui termine sa vie comme directeur du cabinet des médailles de Lorraine et puis de l'Empire des Habsbourg, qui termine à Vienne. Cas également peut-être moins extraordinaire, mais celui de Pierre Prion, qui est un fils d'un petit notaire Ouerga et qui devient scribe du marquis d'Aubé, et qui est un véritable hypergraphe lui aussi, qui laisse un nombre très volumineux d'écrits dont on a retrouvé certains et dont le dernier publié l'a été en 2007 Jean-Marie Croget et Emmanuel Leroy-Ladurie. Donc un certain nombre de publications, et j'en viens donc tout de suite à ce groupe de recherche que j'évoquais au début de mon intervention, qui est né en 2003. Je commence par la fin, c'est-à-dire que je commence par les publications, qui sont celles d'actes de colloque. Un premier colloque, a eu lieu en 2002 à Paris, et a mis en place le l'immense chantier des livres de raison, donc un colloque qui s'intitule « Au plus près du secret des cœurs, nouvelles lectures historiographiques des écrits du fort privé », qui a été suivi par un colloque en province, donc là c'était Paris 2002, le suivant s'est réuni à Limoges en 2005 sous la direction de Michel Cassan et s'est intéressé à l'objet livre, à l'objet matériel. Un troisième colloque de retour à Paris a eu lieu en 2006. Là, nous avons élargi notre espace à l'Europe. Ensuite, nous sommes revenus en province, où là, moi, j'ai invité les collègues du GDR à venir visiter le Rouergue, en les invitant à Conques, qui s'est intéressé, ce colloque s'est intéressé à l'individu, à l'écriture de soi. Et enfin, est programmé, en guise de feu d'artifice de ce groupe de recherche, qui prendra fin en 2011, est programmé un colloque qui élargit à l'espace mondial son niveau de réflexion, un colloque sur les usages de l'écrit du fort privé. La thématique est suffisamment large pour accueillir tout le monde et qui s'intéresse donc aux Afriques, aux Amériques, aux Asies, puisque tout est au pluriel, Occident, Orient, Paris 2011. Ce colloque aura lieu au printemps 2011 à la Sorbonne. Ce groupe de recherche compte environ une quarantaine de chercheurs qui eux-mêmes publient de manière plus ou moins individuelle ou collective d'ailleurs un certain nombre de travaux, dont en voici quelques-uns, publications de sources avec une édition critique aujourd'hui digne de ce nom, faite dans les canons actuels de la recherche scientifique. Un colloque réuni autour de l'idée d'archives familiales d'une noblesse provinciale, dont les textes ont été réunis par René Favier. Je pense qu'il a eu lieu à Grenoble, ce colloque. Vous avez donc le livre qui vous a été présenté tout à l'heure par Jean-Marc Morisseau, que j'ai donc publié il y a 2 ans sur les livres de raison, qui est une introduction donc à l'étude des livres de raison. Et enfin, le dernier né qui vient de sortir, qui est le fruit d'une thèse d'Anne Béroujon sur les écrits à Lyon. Je pense qu'il s'agit d'une étude dans la veine de celle d'Armando Petrucci en Italie, c'est-à-dire qu'il envisage tous les types d'écrits, l'univers de l'écrit à Lyon au XVIIe siècle, depuis les écrits de type graffiti sur les murs de la ville ou de type affiche d'imprimé jusqu'aux écrits domestiques. Il envisage donc les différents usages de l'imprimé et du manuscrit dans la ville de Lyon. Alors, voici le site. Normalement, c'est sur cette page d'accueil à laquelle vous devez accéder si vous écrivez écrit du fort privé au pluriel et sans accent. Vous aurez une présentation générale avec différents onglets et notamment 2 onglets ici intéressants qui vous mènent d'une part à la base de repérage qui reprend celle de 1954 et qui a été donc actualisée par la Direction générale des archives de France. Et puis ici, en dessous, un inventaire analytique. Alors là, c'est le début du grand œuvre du GDR. Il s'agit donc de dépouiller les livres de raison à l'échelle nationale, département par département. Et ça, c'est notre grand ouvrage collectif que nous menons grâce à un projet ANR et grâce aussi à un certain nombre d'étudiants qui s'emploient à dépouiller ces livres de raison sous notre direction collective. Alors donc, si vous cliquez dans cette base et que vous recherchez, moi là, je recherchais tous les livres de raison concernant les fratries, je m'intéresse aux frères et sœurs en ce moment. Et donc voilà, vous arrivez sur votre premier livre de raison au bout d'une longue liste. Et la recherche se fait en plein texte, donc c'est tout simple. Et ici, vous avez la moitié d'une fiche, le livre de raison de Joseph Sextus Siméon, décrit de manière tout à fait classique pour des archivistes, et qui se termine, voilà la deuxième moitié de la fiche, par la transcription de l'incipit, et puis la transcription d'un extrait choisi par le transcripteur. Donc, ce qui peut donner une idée du livre et qui vous invite à aller vous-même consulter le livre là où il se trouve, bien sûr. Cela ne vous exempte pas du tout d'une consultation par vous-même, mais cela vous incite en tout cas, cela vous guide dans vos recherches, dans vos premières recherches. Alors, on a repéré un peu plus de 3000 livres de raison dans les fonds publics français. Et là, pour l'instant, puisque c'est en cours de... On est en train de renseigner donc la base de données, c'est en cours d'inscription. Nous avons à peu près 300 livres entrés dans la base à l'heure qu'il est. Et à la fin de l'année 2011, normalement, vous devrez trouver les 3000 livres concernés. Alors cette expérience collective se termine, s'achève donc en 2011, mais elle risque de se perpétuer dans un cadre européen. Là, nous étions dans un cadre franco-français jusqu'à maintenant. Grâce à un projet qui a été déposé à la European Science Foundation et qui attend sa validation, qui ne saurait tarder, enfin en tout cas on reste optimiste, on reste enthousiaste, on attend la validation de ce projet qui regroupe des historiens de toute l'Europe avec un intérêt particulier là pour nos collègues de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est qui eux travaillent déjà très bien et beaucoup sur le même type d'écriture domestique. Bien des pistes sont envisageables en histoire sociale, en histoire culturelle, et tel que nous sommes dans cette salle, je pense que nous pourrions chacun lancer une piste différente et nous serions à la tête d'au moins 35-40 pistes différentes. C'est une source, les écritures privées sont une source que l'on pourrait qualifier de caméléon et qui a d'ailleurs été longtemps utilisée comme telle, comme un réservoir inépuisable de citations. Et c'est précisément ce dont nous ne voulons plus. Nous voulons que les livres de raison et les écrits de foi privée au sens le plus large, c'est-à-dire qui englobe à la fois les mémoires, les journaux, les diaires, les livres de famille et également les correspondances, même si le GDR, lui, a limité le corpus en excluant les correspondances, parce qu'il y a d'autres groupes de foi privée qui travaillent très très bien là-dessus. En histoire rurale, qu'en est-il? Tout d'abord, évidemment, nous nous posons la question des sources, hein, comme tout historien ordinaire, les écrits ordinaires, eux aussi, paysans, existent-ils? Eh bien, oui, bien sûr. Ils ont été repérés non seulement en France, mais également en Catalogne, où vous devez connaître, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous devez connaître le groupe de Gérone qui travaille autour de Xavier Torres-Sans et qui a publié des livres de pagettes, de paysans catalans. L'Université de Barcelone, notamment, autour d'Oscar Janet. J'étais à Barcelone en décembre et j'ai pu voir qu'ils avaient beaucoup avancé dans ce domaine d'analyse et d'édition des livres de raison paysan. Donc là, il y a déjà de gros ensembles de livres à travailler et avec lesquels imaginer des analyses de type d'histoire comparée, qui sont très intéressantes. En Europe du Nord, Rudolf Dekker, déjà, dans son inventaire, que l'on peut retrouver si vous faites Rudolf Dekker, Pays-Bas... égo-document, parce qu'aux Pays-Bas, on emploie plutôt le terme d'égo-document, vous retrouverez sur Internet l'inventaire de Rudolf Dekker et il a recensé un grand nombre de livres de raison paysans également. En Allemagne, au Danemark, en Suède, j'ai notamment, moi, j'ai repéré un colloque, le colloque de Stockholm sur les Peasant Diaries, qui a eu lieu en 1992 et qui a été publié par le Nordiska Museet. Quelques thématiques déjà explorées et à poursuivre. Alors, comment ai-je procédé? Eh bien, de manière très très simple, j'ai été rouvrir la thèse de Jean-Marc Morisseau sur les fermiers de l'Île-de-France et je l'ai parcourue avec cet objectif de retrouver vos pistes de travail à partir des livres de raison, puisque vous les avez quand même beaucoup utilisés et fort bien. Donc, dès la page 36, on a déjà une première piste qui s'ouvre, puisque les fonds d'archives privées, je vous cite, eux seuls étaient à même de livrer les documents que les fonds publics ne renferment qu'exceptionnellement, actes sous seing privé, correspondances, plans et arpentages d'exploitation, portraits et surtout livres de raison et comptabilité commerciale qui permettaient d'étudier les flux et pas simplement les bilans. Alors là, nous sommes donc face à un énorme sujet, celui des mutations économiques et sociales, celui des problèmes d'ascension. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut employer le mot de descension, c'est assez récent, mais... je crois que vous ne l'utilisiez pas en 1994. Et c'est vrai qu'on a, comme nous sommes quand même toujours assez enthousiastes de nature, nous nous attachons davantage au problème d'ascension, aux questions d'ascension. C'est ce que vous avez fait notamment en évoquant le cas de Pierre Petit, qui a tenu son livre de raison à partir de l'âge de 14 ans et qui raconte cette ascension familiale fulgurante qui passe par un mariage croisé avec une grande famille et qui se finit en apothéose, en belle fortune transmise aux enfants et aux petits-enfants. On peut évoquer aussi l'outillage mental des fermiers d'Île-de-France, leur éducation, leur culture, la maîtrise de la gestion, les pratiques de l'écrit. C'est ce que font aussi de nos jours les sociologues lorsqu'ils s'intéressent, comme Nathalie Joly justement, à cet apprentissage de l'écriture au sein de l'école, mais aussi aux pratiques comptables et aux maîtrises de l'écrit, maîtrise de la gestion comptable et à la maîtrise de l'écrit dans l'exercice des fonctions agricoles. Donc, vous, ce qui vous a intéressé particulièrement, c'est la formation des fermiers à cette pratique comptable spécialisée des flux qui animaient la ferme et qui était plus lisible, peut-être on peut le regretter, mais après tout, pourquoi le regretter? Plus lisible qu'un récit autobiographique qui est quasiment absent de la plume de vos scripteurs fermiers. Et les femmes dans tout ça, vous les évoquez également, ces fermières, qui, vous le notez fort bien, qui ne savent pas signer au moment de leur mariage et apprennent ensuite. Donc il y a une phase de formation qui se fait dans le cadre de la famille et qui ne sont pas inertes, ne sont pas inactives du tout dans la gestion des affaires familiales, mais sont absolument muettes sur le plan scripturaire, puisqu'elles ne prennent pas part, ou rarement. Elles ont une écriture en forme de truchement, là aussi, elles prennent souvent la plume entre deux hommes, entre un père défunt et un fils qui est trop jeune encore pour poursuivre l'œuvre paternelle. Ces écritures de la main du seul fermier, dites-vous, n'enregistraient pas les transactions laissées à la fermière. Or, cette dernière, en raison même de nombreux déplacements qu'effectuait son conjoint, était amenée à jouer un rôle important dans la direction de l'entreprise. Et ça, il ne faudrait surtout pas l'oublier. Et il faut surtout le prendre en compte quand on examine ces écrits de femmes. Ce que je souhaite faire dans les années qui viennent, ce fameux petit corpus de 10% de livres qui sont rédigés par des femmes, mérite que l'on s'y intéresse au plus près. Et j'ai donc beaucoup apprécié votre chapitre sur les fermières. Alors, deux autres pistes en forme de sentier buissonnier, une ébauche personnelle en forme de petite piste. Mes exemples seront Rouerga. Et ici, nous avons les prés qui étaient détenus par Raymond d'Austrie, celui qui tout à l'heure notait la naissance de son fils Jacques, et qui avait ce beau domaine qui est le domaine de Fontange. Alors, pour ceux qui connaissent l'Aveyron, peut-être qu'il y en a dans cette salle, Fontange est aujourd'hui toujours un très beau domaine, mais c'est surtout aujourd'hui une hôtellerie, un hôtel 4 étoiles, doté d'un assez bon restaurant. Donc on peut voir encore quelques petits restes de la famille d'Austrie en allant déjeuner à Fontange. Et voilà donc les prairies de Fontange, transformées, dois-je le dire, en golf, d'où la beauté de ces prairies ici. Alors, tout d'abord, première piste, le plaisir d'aller au champ et de vivre du sien. Et puis tout à l'heure, dans les deux minutes qui suivent, j'examinerai des questions de galettes et de petits pots de beurre, les multiples échanges menus. Donc voici les deux pistes au sein desquelles j'aimerais vous entraîner en tant qu'historienne plutôt du monde des mentalités, de la culture. Alors, du plaisir d'aller au champ à celui de la récolte, ici, on a, dans les livres de raison, on a très souvent, puisqu'il s'agit de livres de contes, le plaisir de l'énumération. C'est ce qui fait même le propre de ces livres de raison, c'est qu'il s'agit d'énumérer des objets, des faits, des événements. Donc là, ici, le plaisir de l'énumération, qui est aussi un plaisir de l'accumulation, que l'on voit ici, mémoire que l'an 1508, Uge à Canadé, 407 septier froment, 107 orge et 107 avoine. Plaisir de l'énumération qui se répète au fil des récoltes, bien sûr. Et puis, en avril 1596, ai-je hanté de ma main à Canagué 27 pommiers ou poiriers. Donc, voici les arbres qu'il a greffés lui-même. Et on retrouve exactement la même chose dans le dernier numéro d'Histoire et Société Rurale, puisque ce dernier numéro publie le journal de Jacques-André Mallet sur le domaine d'Avully en Genevois. Et j'ai pu lire, on a fait 34 hantés de pêchers, pruniers et cerisiers en hantés. Tout ce qu'on a fait en écusson, donc ce qui est une autre forme de greffe, au 1er août 1779, ont manqué. On a renté les mêmes sujets. On a planté au bas du ramé 4 pêchers de pêche sanguine de Coligny. Donc voilà, on trouve à peu près les mêmes plaisirs dans des journaux pourtant spatialement très distants, puisque là, il s'agit du canton de Genève. Plaisir de l'accumulation, de l'énumération, plaisir aussi de savoir. Lorsque l'on lit, comme ici, des listes de recettes, là je vous ai mis juste les titres, pour soigner les chevaux, pour se prémunir des chenilles, pour empêcher le vin de tourner, pour prévenir son aigreur ou l'odeur de moisi, et bien sûr, aussi, pour attraper les loups, renards et autres bêtes puantes et les faire venir à la pas qu'on leur a tendu de 7 à 8 lieues. Donc voilà le livre, les notes commencées à Camarès et continuent à Marseille, d'Antoine Jean Soulier, qui sont un de ses nombreux cahiers. Et voici la recette pour attraper les loups. 2 drachmes de vieux loin, le plus puant et le meilleur. 2 drachmes de galbanum d'Assaf et Tuda. Vous nous direz tout à l'heure si c'était efficace. 2 drachmes de hanneton. Faire frire le tout dans une poêle, s'il s'agit vraiment d'une recette de cuisine. Environ 1/2 heure, puis le passer dans un linge et le mettre dans des pots bien bouchés. Il faut graisser de temps en temps la semelle des souliers de l'homme qu'on envoie. Il s'agit aussi de vivre du sien, d'agrandir son bien, de diversifier ses domaines. Et là, lorsque l'on étudie, il faudrait étudier le livre de Raymond d'Austrie avec un œil de ruraliste, vraiment. C'est-à-dire que l'on verrait, j'aurais dû d'ailleurs vous mettre, je crois que je l'ai faite en plus, la carte, il me semble. Je ne sais pas si elle est dans le livre, mais je suis à peu près sûre d'avoir fait la carte de l'agrandissement des biens de Raymond d'Austry. Donc là, j'ai fait la liste moi-même des différents achats qu'il recense dans son livre de raison et que l'on retrouve aussi en complément chez les notaires. Donc vous voyez, seuls 4-5 achats n'ont pas été mentionnés dans le livre de raison. On les retrouve chez les notaires. Et là, on voit comment un bourgeois de Rodez achète de manière très rationnelle, dans différents terroirs, de manière à ne manquer de rien. Il achète dans le Rouget de Marcillac, là où il a ses vignes, de belles vignes, qui donnent du bon vin, le vin de Marcillac, que l'on préfère alors de beaucoup au vin de Gaillac, et que l'on offre aux invités de marque. Et il achète aussi sur le Cos, où là, il installe ses bêtes, ses élevages. Agrandir son bien, diversifier ses domaines, vivre du sien. Et vivre du sien signifie des accumulations diverses et des greniers pleins. Ce sont des histoires de charrettes qui s'en vont de la campagne vers la ville et qui alimentent les greniers pleins. Et là, on a quelques beaux témoignages dans un tout petit œuvre des mémoires d'Amand Alexis Monteil, de l'historien Amand Alexis Monteil, qui rédige ceci au tout début du XIXe siècle. Ça n'a été imprimé qu'en 1857, mais l'histoire qu'il relate là se passe plutôt à la fin du XVIIIe siècle, pendant son enfance. Donc il raconte comment, enfant, je montais au grenier dont les planchers étaient chargés de grands tas des plus beaux fruits. Il y avait aussi des tas de légumes secs, des haricots de couleur. Avec les haricots bleus, je faisais des processions de pénitents bleus. Avec les haricots blancs, je faisais des processions de pénitents blancs. Et de mes processions, je faisais ensuite des régiments d'infanterie et de cavalerie. Donc voilà ce que raconte Amand Alexis Monteil. Et il raconte aussi que sa mère avait un cours des mets dont elle ne se départait guère. Et donc il raconte comment, à la maison, on mangeait jusqu'à la fin du carnaval du bœuf bouilli, du petit salé à dîner, de la volaille presque toujours, des dindes de la métairie à souper. Détail intéressant, c'est-à-dire que toute cette viande et ces volailles viennent des métairies de la famille Monteil. Les greniers, les charrettes alimentent la table de la famille Monteil. Et qui dit vivre du sien dit aussi pratique quotidienne des échanges menus. Alors je n'ai pas résisté, alors je sors complètement du rouergue, je n'ai pas résisté à vous présenter ce petit chaperon rouge qui est un peu tardif, qui est 19e, mais qui présente fort bien le petit pot de beurre dans un pot de Bechdorf alsacien, très certainement, et cette galette fabriquée par sa mère. Donc des échanges menus ici, pratiqués à faible distance avec des biens transformés à la maison. Et cette réflexion m'a été inspirée par Anne-Marie Cocula, qui a rédigé un bel article sur les échanges menus, et sur, qu'elle a intitulé d'ailleurs « Calette et petits pots de beurre, l'histoire des échanges menus ». Et donc ces échanges menus, constamment et quotidiennement visibles dans les écrits du fort privé, et peut-être ne sont visibles que là d'ailleurs, parce qu'ils ne font pas l'objet de transactions. C'est le propre des échanges menus, de faire plutôt l'objet d'un troc que de transactions réelles. Là, on voit ce rouerga sur une gravure du XVIIIe siècle. On le voit muni de son panier, et si l'on se penche vraiment, on voit quelques légumes qui dépassent du panier. Et je fais encore appel à Amand Alexis Monteil pour évoquer ces échanges menus, aussitôt que nous arrivions, la Dolorate, qui est le féminin de Doloro, suivant l'usage de la campagne, couvrait la table d'une petite nappe blanche sur laquelle elle mettait un plat déchaudé à trois cornes, fait de simple farine, de sel et d'eau, un petit fromage marbré de ses chèvres et un magnifique plat de raisin muscat. Voilà ainsi résumé ce que sont les échanges menus en Rouergue à la fin du XVIIIe siècle. Et voilà le panier de vue d'un peu plus près, et une lettre, non pas d'Amand Alexis, mais de son père, de Jean Monteil, qui remercie l'abbé Cambon. Il le remercie, je vous remercie mille fois, c'est à peu près au milieu du texte, en mon gras, des bons pois verts que vous m'avez envoyés, et je vous supplie de me pardonner si je suis encore à vous en présenter mes remerciements, qui ne sont si tardifs que parce que j'ai eu plusieurs... etc. J'ai fait plusieurs absences et que j'ai été excédé de travail. Donc voilà comment se pratiquent les menus libéralités, les échanges menus entre les siens, son entourage, ses proches, ses amis, les gens qui connaissent quelques difficultés, comme c'était le cas ici de la part de Jean Monteil, et qui en remercient son bienfaiteur. La porte reste ouverte à bien des découvertes. C'est la dernière phrase de votre thèse. Elle convient fort bien ici. La porte reste effectivement ouverte, et grande ouverte à bien des découvertes. D'une approche strictement économique appliquée de manière scientifique à un questionnement qui dépasse largement la réflexion sur la source elle-même, à un usage historien plus spécifiquement lié à l'histoire culturelle, avec des thématiques qui interrogent les pratiques de l'écrit. Les ressources offertes par le fort privé sont immenses. J'espère que je vous en ai convaincu, si vous ne le saviez déjà. Elles sont immenses et elles sont propices aux échanges menus entre historiens, que nous sommes de divers horizons et de tous horizons confondus. Je vous remercie.